de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques éléments à informer, entre autres. Papouasie-Nouvelle-Guinée n'est pas seulement un ami, mais aussi un frère de sang. OIT, Indonésie, soutient l'inspection du travail dans le secteur de la pêche. Comme il faut, mais en œuvre a eu une transformation numérique inclusive et durable. Mafodemne rappelle le danger des attaques idéologiques liées au terrorisme. Président de l'Assemblée consultative populaire de la République d'Indonésie, MPR, demande au ministère de la Santé d'anticiper l'UE 1.1 afin qu'elle n'entre pas en Indonésie. L'Australie apprécie la collaboration avec l'Indonésie pour surmonter la pandémie. Et l'Indonésie est confiante de représenter la région Asie-Pacifique et Moyen-Orient au championnat du monde Shell Eco Marathon. Monsieur le directeur, voici les nouvelles incomplètes. Le président indonésien Joko Widodo a déclaré que les relations entre l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée n'étaient pas seulement celles d'amis, mais aussi de frères alliés. Cela a été transmis par le président Jokowi alors qu'il assistait à un déjeuner d'État offert par le gouverneur général de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Bob Dodai, à APEC House, Port Moresby, Papouasie-Nouvelle-Guinée, mercredi après-midi, heure locale, selon un communiqué du bureau de presse du président secrétariat reçu à Jakarta. Le président Jokowi utilise la philosophie du peuple de Papouasie-Nouvelle-Guinée, One, pour décrire l'unité et la solidarité entre l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Jokowi a également apprécié l'accueil chaleureux du gouvernement et du peuple de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le président Jokowi a également rencontré mercredi après-midi, heure locale, le gouverneur général de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sir Bob Bofeng Dadai, à la maison de gouvernement à Port Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La rencontre entre Jokowi et Sir Bob Bofeng Dadai a duré environ 20 minutes. Jokowi a également tenu une réunion avec le premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marape, à l'APEC House, mercredi après-midi, heure locale. L'Organisation internationale du travail, OIT, des Nations unies, soutient l'inspection conjointe du travail dans le secteur de la pêche indonésien pour prévenir le travail forcé en mer. L'inspection du travail conjointe a été réalisée dans le cadre du suivi de la signature d'un protocole d'accord entre le ministère de la Mandovra et le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche, qui comprend des efforts de surveillance conjoints en mettant en œuvre les lignes directrices pour la mise en œuvre de l'inspection sur les navires de pêche. La directrice de l'OIT d'Indonésie, Michiko Miyamoto, dans un communiqué de presse reçu à Jakarta mercredi, a déclaré que les directives sur l'inspection du travail sont une étape importante pour assurer une inspection du travail plus efficace et coordonnée sur les navires de pêche. Ces lignes directrices ont été élaborées par le ministère de la Mandovra avec la contribution des partenaires sociaux concernés et le soutien de l'OIT en tant que guide pratique pour la conduite d'efforts de suivi conjoint. Ministère de la Communication et de l'Informatique Kemenkominfo de la République d'Indonésie cherche à diriger l'accélération de la transformation numérique nationale inclusive, autonomisante et durable, afin d'optimiser le potentiel de croissance économique numérique de l'Indonésie pour devenir la plus grande d'Asie du Sud-Est. La secrétaire générale du ministère de la Communication et de l'Informatique, Mira Tayiba, dans un communiqué de presse reçu à Jakarta jeudi 6 juillet, a expliqué que la transformation numérique inclusive n'inclut pas seulement la disponibilité de l'accès à l'infrastructure numérique, mais ça met également l'accent sur les aspects de compétences et les compétences de la communauté dans l'utilisation de la technologie numérique. En ce qui concerne la transformation numérique qui donne du pouvoir, Mira a souligné que les gens sont capables d'utiliser la technologie numérique de manière productive. Mira, lors de l'ouverture de l'événement de discussion du groupe de discussion sur la stratégie en aval de l'économie numérique à Jakarta mercredi 5 juillet, a ajouté que la transformation numérique durable signifie que les gens peuvent bénéficier en performance de la technologie numérique et peuvent soutenir la réalisation des objectifs de développement durable 2030. Des services numériques inclusifs, responsabilisants et durables sont mis en œuvre des principaux domaines que sont l'infrastructure numérique, les gouvernances numériques, l'économie numérique et la société numérique. Le ministre coordinateur indonésien de la politique du droit et de la sécurité national, Mahfoud MD, a rappelé à tous les partis des dangers des attaques idéologiques liées aux actes de terrorisme. Mahfoud a déclaré à Jakarta mercredi 5 juillet que les menaces idéologiques sont différentes des menaces territoriales. Les menaces territoriales sont des perturbations de l'espace physique, tandis que les menaces idéologiques sont des perturbations de l'esprit d'unité, de sécurité et de confort dans le cadre d'une idéologie commune. Il a expliqué que les menaces contre l'idéologie peuvent survenir n'importe où, sous la forme de terrorisme, dont ce sera très dangereux si nous ne faisons pas attention. Mahfoud MD a souligné la tendance des attaques terroristes en Indonésie qui a diminué. Même si la tendance des attentats terroristes diminue, Mahfoud a rappelé que la menace existe toujours comme l'infiltration d'opinion radicale dans les établissements d'enseignement. Il a expliqué que l'attitude de radicalisme est une attitude de désapprobation de l'idéologie Pancasila d'opposition au gouvernement et à l'État unitaire de la République d'Indonésie. Le président de l'Assemblée consultative populaire de la République d'Indonésie, MPRRI, Bambang Susatyo, a demandé au gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de la Santé, d'anticiper strictement la nouvelle variante de COVID-19 en Europe, à savoir EU1.1, afin qu'elle n'entre pas en Indonésie en raison de la possibilité que le virus corona continue de muter pour produire de nouvelles variantes. Bambang Susatyo, dans une déclaration officielle reçue à Jakarta mercredi, a également demandé au ministère de la Santé de continuer à se coordonner avec l'Organisation mondiale de la Santé pour mettre à jour les développements sur la nouvelle variante du virus corona dans le monde, en particulier concernant cette UE1.1. En outre, il a également demandé au gouvernement de reconsidérer le renforcement du contrôle sanitaire pour les voyageurs étrangers, en particulier ceux en provenance d'Europe, et se continuer à renforcer le programme de vaccination contre la COVID-19 en Indonésie. Pendant ce temps, dans un endroit séparé de Jakarta, mercredi, le chef du bureau des communications et des services publics du ministère de la Santé, Siti Nadia Tarmizi, a déclaré que le cas EU, Union européenne 1.1, n'avait pas été trouvé en Indonésie et que l'Organisation mondiale de la santé n'avait pas donné un avertissement, car il était toujours inclus dans la liste des variantes d'un monitoring. Le gouvernement australien apprécie la collaboration intersectorielle en Indonésie dans les efforts pour surmonter la pandémie de COVID-19, en particulier pour atteindre les personnes vulnérables qui ont besoin de vaccinations. Fais un rapport de la déclaration écrite du partenariat australien-Indonésie pour la résilience sanitaire à IHSP à Jakarta mercredi. La conseillère ministérielle pour la gouvernance et le développement humain de l'ambassade de l'Australie à Jakarta, Madeleine Mouse, a exprimé sa gratitude lors de sa participation à un webinaire intitulé Collaboration for Inclusive Vaccination. Leçons pour la santé indonésienne, la sécurité en vaccination. Cette collaboration a été réalisée entre autres à travers la collaboration Indonésie-Australie, un partenariat avec les médias, les ONG, le secteur privé et les universités pour créer des supports, des communications inclusives dans le centre de Java, le sud de Sulawesi, Bali, Yogyakarta et Nusa Tenggara orientale. Le webinaire vise à présenter des services inclusifs, en particulier pour atteindre les groupes vulnérables. La collaboration intersectorielle a également été le principal facteur qui a été de l'Indonésie l'un des 5 premiers pays avec les vaccinations COVID-19 les plus réussies au monde. Les organisateurs du CEL et Comarton sont convaincus que l'Indonésie représentera la région Asie CEL et Comarton qui se déroulera à Bangalore du 10 au 12 octobre 2023. Global General Manager CEL et Comarton Norman Coach sur le circuit international Pertamina Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Occidentale, a déclaré mercredi que l'équipe indonésienne avait réalisé des réalisations impressionnantes au cours de la première décennie. La conviction de Norman était basée sur un certain nombre de réalisations, telles que celles réalisées par l'équipe Bumi Banyuwangi de l'Université Indonésia de l'éducation lors des championnats du monde Shell Eco Marathon Drivers 2016, ainsi que l'équipe Sapuangin Team 2 de l'Institut Technologies Blue November au championnat du monde des pilotes 2018. Le concours de créativité entre étudiants indonésiens a animé 13 pays avec la participation de plus de 70 équipes, en tant qu'hôte, l'Indonésie a fourni le plus de participants avec plus de 40 équipes lors de l'éco-marathon Asie-Pacifique et Moyen-Orient de cette année. Les participants s'affronteront dans deux catégories, à savoir prototype et urban concept. Bonjour, je vais t'arrêter tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Sejuritak bonsoir, voici la clé diplomatique, dont le titre est Le 50 ans du Forum Indonésie Corée s'éteint avec succès à Séoul. L'ambassade d'Indonésie à Séoul a organisé un forum pour commémorer le 50e anniversaire de la relation diplomatique entre la Corée et l'Indonésie. L'événement a été considéré comme un moment important pour discuter de la coopération bilatérale et stratégique entre les deux pays. L'événement est organisé en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères de Corée du Sud et l'Association coréenne pour les études sur l'Asie du Sud-Est. S'est déroulé à Séoul lundi le 26 juin dernier. Lors de la séance d'ouverture, le président de l'Association coréenne pour les études sur l'Asie du Sud-Est, le professeur Jeon Jae-seong, a souligné l'importance de la coopération entre l'Indonésie et la Corée depuis 5 ans dans le développement de la recherche. D'autre part, la visite de travail du président indonésien Joko Widodo en Corée du Sud en 2022 reflète l'engagement des deux pays à continuer de renforcer les relations bilatérales. Pendant ce temps, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Park Jin, en tant qu'orateur principal, a déclaré que le 50e anniversaire de la relation diplomatique entre l'Indonésie et la Corée était la bonne occasion de discuter de la coopération future, en particulier dans le domaine politico-sécuritaire, économique et socio-culturel. Pendant ce temps, l'ancien ministre indonésien des Affaires étrangères de 2001 à 2009, Hasan Wirayuda, était également présent en tant qu'orateur principal. Il a souligné les relations bilatérales de plus en plus étroites entre l'Indonésie et la Corée d'année en année. Selon lui, les deux pays ont des principes démocratiques et un grand respect des droits de l'homme. Hassan Wirayuda espère que la coopération entre l'Indonésie et la Corée, y compris entre leurs communautés, sera encore renforcée. Le forum de communication des relations diplomatiques entre l'Indonésie et la Corée du Sud a été divisé en trois sessions pour discuter de la coopération politique et sécuritaire, économique ainsi que socio-culturelle. La première séance a présenté le Dr Yaya J. H. Mulyana, chef de l'Agence de stratégie de politique étrangère du ministère indonésien des Affaires étrangères, et M. Kim Dong Bae, directeur général de l'ASEAN et de l'Asie du Sud-Est du ministère des Affaires étrangères de la Corée du Sud. La deuxième session a impliqué Ferry Akbar Pasaribu, sous-ministre adjoint du ministère indonésien de coordination des affaires maritimes et de l'investissement, et M. Lee Kang Yoon, président de la Chambre coréenne de commerce et d'industrie en Indonésie. La troisième séance a présenté M. Lee In-yuk, directeur général de la Maison de la culture de l'ASEAN à Busan, et Ratin Rawaswari, la doyenne à l'Université catholique de Parahyangan, Bandung, en Indonésie. Dans le discours de clôture, l'ambassadeur d'Indonésie en Corée du Sud, Gandhi Sulistianto, a apprécié la tenue de 5 ans des relations diplomatiques entre l'Indonésie et la Corée du Sud, organisée par le ministère des Affaires étrangères de Corée du Sud et les parties liées. L'ambassadeur Gandhi espère que les résultats de ce forum pourront être mis en pratique par toutes les parties, pas seulement le gouvernement. Ces auditeurs, c'était la clé diplomatique pour ce soir.
La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et ses enregistrements, dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants. From Indonesia to the
world. Bonsoir, chers auditeurs, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 6 juillet 1940. L'aéroport de Kemayoran a commencé ses opérations. L'aéroport de Kemayoran est le premier aéroport d'Indonésie ouvert aux vols internationaux. La piste de l'aéroport a été construite en 1934 et inaugurée officiellement le 8 juillet 1940. L'aéroport fonctionne officiellement depuis le 6 juillet 1940 en commençant par le premier avion à atterrir du type DC-3 Dakota appartenant à la compagnie aérienne des Antilles néerlandaises KNILM. Cet avion continue d'opérer à l'aéroport de Kemayoran jusqu'à la fin de la période d'exploitation de l'aéroport. L'aéroport de Kemayoran a officiellement cessé ses activités le 31 mars 1985 avec le début du transfert des activités aériennes vers l'aéroport international Soekarno-Hatta. Pada Passons maintenant à l'événement du 6 juillet 1975, les Comores deviennent indépendantes. Les Comores sont une ancienne colonie française. Le pays est devenu indépendant le 6 juillet 1975 et s'en est séparé. Pendant ce temps, les grandes îles autour des Comores décident de rejoindre la France. Il s'agit de l'île de Mayotte, de la Grande Comore, d'Anjouan et de Mohel. En tant qu'ancienne colonie française, les Comores utilisent encore le français pour communiquer. Cependant, depuis son adhésion à la Ligue arabe, les Comores utilisent davantage l'arabe dans les conversations de tous les jours. Le système de gouvernement des Comores est une république présidentielle fédérale. Tout comme l'Indonésie, le président ne peut servir que deux mandats avec un mandat de 5 ans. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 6 juillet 2007. Le Comité international olympique a approuvé la formation des Jeux olympiques de la jeunesse. Les Jeux olympiques de la jeunesse sont un événement sportif organisé tous les 4 ans en complément des Jeux olympiques et auquel participent des athlètes âgés de 14 à 18 ans. L'idée des Jeux olympiques de la jeunesse a été lancée par le président du Comité international olympique, Jacques Roch. Le 6 juillet 2007, la 119e réunion du Comité international olympique à Guatemala, en Amérique centrale, a approuvé la création des Jeux olympiques d'une version jeunesse. Les premiers Jeux olympiques de la jeunesse ont finalement eu lieu pour la première fois en 2010 à Singapour. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
C'est Jemil Wangten pour la rubrique suivante. Voici donc mon Indonésie, dont le titre est « Le ministère de l'Environnement et des Forêts, KLHK, invite les gouvernements locaux à collaborer pour soutenir la réduction des émissions de gaz à effet de serre en Indonésie ». La directrice générale du contrôle du changement climatique du ministère de l'Environnement et des Forêts, Laksmi Dewanti, à Ambon, au Molouk, a déclaré mardi 4 juillet que l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre est un objectif commun qui est réalisé non seulement par le gouvernement central, mais aussi les gouvernements locaux, les collectivités, le monde des affaires et les parties prenantes, notamment dans les régions des Molouk et de Papouasie. Elle a déclaré que l'Indonésie s'était engagée à travers l'objectif de la contribution déterminée au niveau national, NDC, à s'adapter et à atténuer le changement climatique afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 31,89% en 2030. Selon elle, l'Indonésie mène des actions d'adaptation et d'atténuation depuis 2009 et réalise chaque année un inventaire des effets de serre pour s'assurer des niveaux d'émissions de gaz à effet de serre de l'Indonésie. Laksmi Dewanti a expliqué que les données de 2010 à 2021 montrent que les émissions de gaz à effet de serre en Indonésie sont inférieures à l'objectif chaque année. Selon elle, cela signifie que jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas encore maximisé, même s'il a fait des efforts et est sur la bonne voie et on espère que la cohérence des engagements sera réalisée de manière indépendante par chaque partie. Une solution permanente est également mise en œuvre sous la forme d'un contrôle du brûlage des forêts et des terres, a-t-elle déclaré. Elle a déclaré que non seulement lorsque des incendies de forêts et de terres se produisent, mais bien avant cela, elle avait invité les gouvernements locaux à prendre des mesures de prévention puis à veiller à ce que les petits incendies ne deviennent pas grands et puissent être éteints, puis à procéder à la réhabilitation. La directrice générale du contrôle du changement climatique du ministère de l'Environnement et des Forêts, Laksmi Dewanti, a expliqué qu'actuellement, dans le contrôle des incendies de forêt, nous avons été en mesure d'atteindre les performances de l'incendie dans la réduction de la superficie des terres brûlées et les taux d'incidence des incendies de forêt qui tant continue à diminuer avec le temps. C'est Rita, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Asal kau tahu
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Serjolitop, voyageant vers le centre de Kalimantan, il y a un village touristique, à savoir Pasir Panjang, qui mérite d'être visité. Ce village touristique est habité par la tribu Dayak qui conserve encore ses traditions culturelles. En vous rendant dans ce village, vous découvrirez divers potentiels touristiques tels que le tourisme traditionnel, le tourisme culturel et l'écotourisme. Le village touristique est situé non loin de l'aéroport Iskandar Pangkalan Bun, soit environ 5 minutes de trajet. Il existe divers endroits intéressants dans le village touristique de Pasir Panjang. L'un d'eux est la maison rumah betang Pasir Panjang. Rumah betang est une maison traditionnelle Dayak sous la forme d'une longue maison sur pilotis. Dans les temps anciens, rumah betang était habité par plusieurs familles Dayak. La philosophie est qu'il existe une relation d'attachement mutuel et de solidarité entre les familles. L'accès à la cour autour de la maison traditionnelle Pasir Panjang est gratuit. Vous pouvez prendre des photos amusantes autour de la cour herbeuse. Si vous aimez jouer dans l'eau, vous pouvez vous baigner et nager dans la rivière Pasir Panjang. Cette rivière a de l'or rouge brun car elle est exposée aux racines des arbres dans le cours supérieur de la rivière. Il y a des parties peu profondes et profondes de la rivière. Petits et grands peuvent se baigner dans cette rivière car l'eau est froide et coule calmement. Non loin de la maison Betang Pasir Panjang, où à environ 5 minutes à pied, se trouve le cimetière traditionnel Kaharingan Dayak. Le plus intéressant de la cérémonie funéraire, c'est que si la tribu Dayak Kaharingan tient habituellement la cérémonie de mort avec la cérémonie Tiwa, tenue pendant plusieurs jours pour délivrer l'esprit du défunt. Le peuple d'Ayak de passer panjang dans terre que les morts comme musulmans ou chrétiennes. Cependant, la différence réside dans la manière de transporter le cadavre de la maison au cimetière, à savoir le cercueil avec le cadavre dedans est sorti par la fenêtre. Si la fenêtre est trop petite, elle sera coupée pour permettre au cercueil de sortir de la maison. Un autre site touristique intéressant que vous pouvez visiter est le centre de soins et de quarantaine des orang-outans. C'est un lieu de réhabilitation des orang-outans qui ont besoin de soins et de quarantaine. À cet endroit, il y a une forêt d'entraînement pour les orang-outans afin qu'ils soient prêts à être relâchés dans leur habitat. C'est Zurita, c'était notre programme Le Magazine Culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!
Bersama untuk selamanya.
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter Festival de Loksado 2023. Les amateurs de tourisme aquatique extrême ne manqueront pas ce festival. C'est ce qu'on appelle le festival Loksado qui présente la sensation de faire du rafting sur une rivière qui a un fond légendaire unique. La rivière Amandit est célébrée pour la légende du combat de dragons dans le passé. Selon l'histoire, il y avait un mari et une femme qui ont trouvé un œuf de dragon et ont décidé de le manger. En conséquence, ils se sont transformés en dragons et ont dû combattre de vrais dragons dans la région. Le sang de la défaite qui coule dans la rivière Amandit est le début de l'histoire de cette rivière. Cette légende ajoute à l'attractivité de la rivière Amandit en tant que lieu de rafting stimulant et passionnant. Le gouvernement de la région de Hulu Sungai Selatan organise à nouveau un événement annuel, le Festival Loksado 2023, du 7, 8 jusqu'au 9 juillet. L'événement du Festival de Loksado devait augmenter les visites touristiques à la région de Hulu Sungai Selatan, ce qui aura un impact sur l'augmentation des revenus régionaux et sur l'économie de la communauté. Cette année, ce festival de Loksado sera couplé aux activités de tour de Loksado, de sorte que le nombre de visites et de la durée de séjour des touristes à Loksado augmente. Cette année, le festival Loksado a préparé 5 radeaux pour le pic de l'événement de rafting. Les participants seront invités à naviguer sur le fleuve pendant 2h30. Chaque radeau sera rempli par une équipe de 3 participants. Au milieu du voyage, les participants sont invités à s'arrêter pour planter des arbres afin de préserver l'environnement. En plus, l'offrir la sensation palpitante de faire du rafting sur la rivière Amandit, le festival Loksado organise également des activités de tubing fluvial qui viennent d'avoir lieu cette année. Il y a aussi des spectacles artistiques et culturels locaux, des animations musicales, des randonnées amusantes, des plantations d'arbres et des festivals de Mahumbai. Mahumbai est une tradition culinaire de la tribu Dayak Meratus où ils cuisent en plein air sans ustensiles de cuisine. Chers amis de quatre coins du monde, c'était notre rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta, intitulée Festival de Loksado 2023. Merci à tous, à bientôt.
La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, les Kupang, Mandalika et la Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots. Arial 12 et ses enregistrements dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicquiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants. Georges Letard, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons la chanson de Ruth Sahanaya intitulée Kaula Segalanya. Chers amis, Ruth Sahanaya ou bien Ute, l'une des divas de la pop indonésienne. Elle a commencé à être active dans le monde du chant depuis 1987. Son premier album intitulé Seputi Kasih, qui sort en 1987, est alors considéré comme un succès. Après cela, son nom a encore plus brillé lorsqu'elle a chanté une chanson intitulée Kaula Segalanya. Cette chanson raconte l'histoire de quelqu'un qui sent que la personne qu'il aime est tout, parce que les gens qu'il aime ont rendu sa vie plus précieuse. Jusqu'à présent, ces tubes restent agréables à éteindre, ce qui a poussé plusieurs musiciens indonésiens à réarranger la chanson, dont la jeune chanteuse Claresta et le chanteur à la voix particulière Semi Simorangkir. Bonsoir, Jetard. Voici Ruth Sahanaya va chanter une chanson intitulée Kaula Segalanya. Bonne écoute! Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.